est une rediffusion. Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On pourrait penser que tout ou presque a été écrit sur Napoléon. Eh bien non. En cette année du bicentenaire de sa mort, parmi les livres et diverses publications, deux ont retenu mon attention. Napoléon et Jésus, l'avènement d'un messie de Marie-Paul Raffaelli Pasquini, publié aux éditions du Cerf, et Napoléon et Dieu de Philippe Bornet, aux éditions Via Romana. Si la question sur la foi de Napoléon a déjà été posée, était-il croyant ou non? Était-il chrétien? Quelle fut l'influence de son éducation catholique? Ces interrogations restent marginales au regard des récits et analyses de son action politique. Et ces deux livres viennent donner un éclairage sur la vie intérieure de l'empereur, surtout dans les dernières années de sa vie à Sainte-Hélène, l'île de son exil où il meurt le 5 mai 1821. Et nous ouvrons avec Philippe Bornet et son « Napoléon et Dieu » aux éditions Via Romana, livre préfacé par l'historien Jean Tullard. Philippe Bornet, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez voulu reposer avec un nouveau regard cette question de la foi de Napoléon. Pour vous, cela méritait un éclaircissement, semble-t-il.
Ah, certainement, car le nombre de livres qui ont été écrits sur ce problème précis, qui n'est pas la politique impériale de Napoléon, la politique religieuse, est assez faible. Il y en a un très célèbre, celui du Chevalier de Beauterne, qui est paru en 1840, c'est un peu daté. Encore que ce soit très intéressant. Il y en a eu un autre d'un certain Albert Lombroso dans les années 1910. Il y a aussi un livre que j'avoue je n'ai pas lu, de Pierre Thévenot. Et puis, je suis désolé d'avoir à vous le dire, il y a le mien. Le mien qui essaie d'éclaircir ce mystère de la foi de Napoléon, qui a souvent, comme vous savez, accusé d'être athée. Or, Napoléon n'est pas athée du tout. C'est une erreur totale, je l'ai entendu malheureusement pendant cette période de commémoration. Et à chaque fois, on fait une allusion à une phrase très célèbre dans le milieu des historiens de l'Empire, une phrase du général Bertrand. Le général Bertrand avait accompagné en captivité Napoléon, il a laissé des mémoires qu'il n'avait pas publiées. C'était des notes comme un étudiant, si vous voulez, de l'abrégé. Alors, il a fallu que le premier historien qui s'en est occupé, Floriot de Langue, fasse une véritable traduction. Et à la date du 1er mai, 5 jours avant la mort de Napoléon, il écrit « Il, c'est Napoléon, paraît dire qu'il n'y a rien après ». Or, cette phrase, en fait, n'a été ni écrite ni prononcée. On en est sûr de sûr, ça je vous le garantis, et les historiens actuels de la Fondation Napoléon ont republié le texte du général Bertrand pour l'année 1820-1821, et la phrase ne s'y trouve même pas, elle n'a pas été retenue. Donc, c'était en fait le principal argument des gens qui disait que Napoléon était athée, et c'est en contradiction avec tout ce qu'il a dit et fait autour de sa vie.
Alors précisément, quelles ont été vos sources? Est-ce que c'est le mémorial de Sainte-Hélène ou bien au-delà?
Alors, le mémorial de Sainte-Hélène, il est irremplaçable. Vous savez qu'il y a une nouvelle édition, là encore, qui est parue à la Fondation Napoléon il y a 2-3 ans. Il y a également des textes plus récents, certains qui sont très intéressant, voire irremplaçable, en particulier celui de Marchand. Marchand, c'est le valet de chambre. Et les mémoires de Marchand, elles sont parues il y a seulement quelques dizaines d'années. Vous voyez, c'est une découverte du XXe siècle. Et donc, les mémoires de Marchand, plus celles d'Antomarquis, plus celles du général Bertrand, ce sont les sources essentielles, en tout cas sur la période finale, la période de Sainte-Hélène.
Alors, ce qui apparaît dans votre livre, Philippe Bornet, c'est un Napoléon finalement très tiraillé entre la foi catholique de son enfance, celle qu'il a reçue dans sa famille, une famille catholique, et puis cet homme profondément rationaliste et travaillé par les questions existentielles.
Oui, il l'a dit lui-même, mais vous savez qu'il en avait le regret et il disait sans arrêt à Sainte-Hélène, j'ai vraiment la nostalgie de la foi de mon enfance. Jamais Napoléon a dit je veux rester déiste, pas du tout. Il souhaitait retrouver la foi, mais il disait lui-même, j'ai trop d'objections. J'ai trop d'objections et ma raison ne me permet pas de me convaincre. Alors, les objections, c'est toujours les mêmes. C'est la peur de l'enfer, il trouve ça absolument injuste. Et c'est des doutes sur l'historicité de Jésus-Christ. Et aussi des questions sur la nature de l'âme. Il se demande vraiment si l'âme est immortelle ou si elle périt avec l'homme. Et il va commencer par lire les grands noms de la religion, je veux dire Fénelon, Bossuet, Massabielle, etc., etc. Il a tout ça dans sa bibliothèque. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va finir par demander un renfort spirituel. Il va passer par son oncle, le cardinal Fesch, et il obtiendra à Sainte-Hélène deux aumôniers, un qui est un peu âgé, il faut bien reconnaître, et l'autre qui est beaucoup plus jeune, qui a un rôle fondamental, puisque c'est lui qui va confesser Napoléon à la fin de sa vie, l'abbé Angelo Vignali, un Corse comme lui.
Alors, un passage très important hein, dans votre livre, Philippe Bornet, c'est ce que raconte Lascaze à propos de Napoléon, donc à Sainte-Hélène, bien sûr, on est en 1816. Napoléon dit, ou aurait dit, d'où viens-je, qui suis-je, où vais-je ? Ce sont autant de questions mystérieuses qui nous précipitent vers la religion. Et après, il dit, on croit en Dieu, on croit à Dieu, parce que tout le proclame autour de nous et que les plus grands esprits y ont cru. Alors là, il cite Bossuet, Newton, Leibniz, etc. Mais on ne sait que penser de la doctrine qu'on nous enseigne et nous nous retrouvons la montre qui va sans connaître son horloger. Là, c'est quand même, ça, c'est du Napoléon pur jus, ça.
Oui, non, mais il l'a dit. Alors, il faut faire toujours le tri dans ce que dit Napoléon. C'est là où, en tant que médecin, j'ai pu peut-être apporter quelque chose. Comme dit Thierry Lenz, il faut recontextualiser.
Toujours, alors, hein. Il faut toujours recontextualiser.
Bien sûr, c'est le béaba en histoire. Alors, vous avez trois périodes à Sainte-Hélène. Celle où Napoléon est en bonne santé, ou à peu près. Celle où il est malade. Et enfin, celle où il agonise. Et alors, il faut toujours replacer les déclarations de Napoléon dans ces trois cases, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, qu'il se rapproche de la mort, bien sûr, il va évoluer. Donc, entre le Napoléon qui arrive en 1815, ce quadragénaire en pleine possession de ses moyens, et puis Napoléon agonisant, atteint probablement d'une hépatite virale et d'un cancer de l'estomac, si vous voulez, c'est pas le même personnage. Et n'oubliez pas aussi qu'à Sainte-Hélène, il connaît, comme disent les théologiens, une kénose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un affaiblissement de son moi, de son soi. Il va être de plus en plus amoindri, humilié. Voilà. Et comme disait son oncle cardinal Fesch, Dieu humilie toujours l'homme qu'il veut sauver. Donc Napoléon, empereur déchu, malade, séparé de sa famille, et il aura tout connu lors de son agonie et de son emprisonnement à Sainte-Hélène.
Oui, effectivement. C'est Marie-Paul Raffaelli Pasquini qu'on entendra dans la deuxième partie de l'émission qui parle de son Golgotha. Sainte-Hélène aura été son Golgotha.
Oui, c'est pourquoi nous sommes bien d'accord tous les deux pour dire que Napoléon, d'une certaine manière, est une figure christique. Napoléon, parce qu'il est malheureux et martyrisé sur son île, va descendre petit à petit vers les enfers et il va ressusciter en quelque sorte, non pas comme le Christ évidemment, mais dans sa dynastie. C'est parce qu'il a donné le spectacle d'un empereur déchu à Sainte-Hélène que l'opinion mondiale va se retourner en sa faveur et que Napoléon III un jour pourra régner.
Et c'est donc à Sainte-Hélène, hein, c'est ce que le souligne effectivement un certain nombre de spécialistes, que Napoléon va retrouver la foi simple, j'allais dire, de son enfance corse.
Oui, la Corse, à l'époque, c'était un pays pauvre et dur. Et vous avez vu que Napoléon reçoit les premiers principes de la religion de manière très énergique par sa mère Laetitia Ramolino, qui est une femme d'abord très belle. Elle s'est mariée à 13 ans, c'est quand même assez extraordinaire. Elle a eu un très grand nombre d'enfants, c'est une femme de tête et d'esprit.
Et elle est dure.
Elle est très dure avec lui. Par exemple, un jour, il fait une bêtise et il est très mal poli avec un vieux prêtre pour lequel on lui a demandé de servir la messe. Laetitia n'est pas contente et elle va lui tendre un piège. Elle va lui dire, tu sais, demain, on va aller cueillir des cerises. Alors Napoléon est ravi parce qu'il adore ça, il a même pas 9 ans. Hein. Et une fois qu'il a enlevé sa culotte pour se changer, hop, elle survient dans la chambre et elle lui donne une bonne fessée. Alors ça passerait plus aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Là, on est vraiment au 19e, là.
Voilà.
Alors, même fin 18e, plutôt, oui.
Oui, et Napoléon, il s'en souvenait encore à Sainte-Hélène. D'une certaine manière, ça lui a peut-être fait un petit peu de bien. Alors, donc, c'est cette foi un peu de montagnard corse, c'est la foi de Napoléon dans son enfance.
La foi du jeune adulte, donc c'est celle, peut-on dire, d'un théiste un peu à la Robespierre, d'un fils de la Révolution ?
Alors oui, ça c'est après 16 ans.
Oui.
Il ne faut pas le faire vieillir.
Jeune adulte.
Voilà. Oui. Jusqu'à 16 ans, on a un témoignage d'un de ses amis qui s'appelle Démasis, qui était comme lui à l'école militaire. Et Démasis raconte l'histoire suivante. Il dit, Napoléon, lorsqu'on ne se tient pas bien à la messe, eh ben, il n'est pas content. Il dit aux gens, arrêtez, tenez-vous bien. voyez ? Donc il a encore ce respect. Et dans sa chambre, il y a toujours un crucifix, il fait sa prière deux fois par jour. Non, il est très pieux. Alors, mais un jour, il se dispute avec son confesseur. Il se dispute avec le professeur de géographie qui veut lui faire passer gentiment un petit message. Mon cher Napoléon, écoutez, vous parlez toujours de la Corse. Mais enfin, je vous rappelle quand même que votre souverain maintenant, c'est Louis XVI. Et Napoléon est furieux. Et furieux, on voit le confessionnal qui bouge, hein, on entend des éclats de voix, il sort, il s'en va. C'est un petit scandale à l'école militaire. Et à partir de cette date-là, comme le dit Jean Tullard, bah, il s'éloigne de Dieu et de la religion. Mais voilà.
Il a une mauvaise opinion des athées.
Ah oui, 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 oui. Metternich a dit de lui, Napoléon n'a jamais cru qu'il puisse exister un athée de bonne foi. Donc, c'est pour ça que quand j'entends parfois dans certaines émissions à la télé que je ne nommerai pas des gens dire que Napoléon est athée, je suis désolé, le dossier ne peut pas être plaidé. Alors, on peut dire que Napoléon était déiste, à la limite. On peut dire que c'était un mauvais chrétien. Mais dire qu'il est athée, alors ça, c'est faux.
Et c'est un homme particulièrement travaillé par les questions métaphysiques, hein, comme on vient de le dire.
Oui, il s'intéresse à tous ces problèmes, l'immortalité de l'âme, la vie après la mort, l'historicité de Jésus-Christ. Par exemple, quand il est conquérant en Italie, un jour, il visite un couvent et on lui montre une histoire de Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un historien du peuple juif qui est très connu. Et il y a un passage sur Jésus-Christ. Et Napoléon prend le manuscrit, il l'ouvre et il voit que le passage sur Jésus-Christ est un peu plus petit, différent et inséré a posteriori. Alors il a un doute horrible, il se dit mais c'est un faux. Je pense que ça peut pas être un faux parce que si le manuscrit avait été un faux intelligent, la partie sur Jésus-Christ aurait eu la même apparence que le reste. Mais ça va le marquer beaucoup, ça va le marquer beaucoup et ça introduit dans son esprit des doutes qu'ils poursuivront jusqu'à Sainte-Hélène.
Alors, je reste dans le domaine des questions métaphysiques de Napoléon à Sainte-Hélène, là encore, hein, on est en 1817. Il se déclare matérialiste. Qu'est-ce que l'électricité, le galvanisme, le magnétisme ? C'est là que gît le grand secret de la nature. Le galvanisme travaille en silence. Je crois, moi, que l'homme est le produit de ses fluides et donne la vie, que l'âme est composée de ses fluides et qu'après la mort, il retourne dans l'éther. D'où ils sont pompés par d'autres cerveaux.
Ah oui, c'est du transhumanisme.
C'est du Napoléon, ça ?
Oui, 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 oui. Mais alors, bon, ce qu'il dit...
Ça ressemble pas à Napoléon, quand même, non ?
Ben, il l'a pourtant dit. Simplement, vous savez, Napoléon est un homme d'humeur. La comtesse de Montholon, qui a peut-être été sa dernière maîtresse, avec sa subtilité et son intuition féminine, l'avait bien compris. Si vous voulez, il a été profondément marqué par l'empreinte de la famille. Et il répétait à Albine de Montholon, « Personne ne peut dire qu'il ne sera pas un jour dévot. » Personne ne pourra jamais dire qu'il n'aura pas la foi au dernier moment. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui lui est arrivé.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Philippe Bornet pour son livre « Napoléon et Dieu » aux éditions Via Romana. Alors, Napoléon et la religion, très pragmatique, hein, Napoléon. De même, Napoléon, j'allais dire, et le mariage, très pragmatique aussi.
Oui, le mariage, c'est drôle.
Oui, vous consacrez un long chapitre au mariage de Napoléon, avec celui de Joséphine, hein, son premier mariage, et vous parlez de farce.
Oui, c'est quasiment une farce. Songez que Napoléon, si je résume, en fait, il est bigame du point de vue civil et les deux mariages religieux sont sujets à caution et peuvent être annulés. Donc c'est quand même extraordinaire.
Alors le premier mariage, donc le 9 mars 1796.
Alors il épouse civilement Joséphine, il y a tout le gratin de l'époque. Et alors quand on reprend le contrat de mariage, c'est ni fait ni affaire. Songez par exemple qu'on dit que le premier mari de Joséphine, Alexandre de Beauharnais, qui a été guillotiné.
2 ans avant.
Il est donné comme présent.
Ça, c'est du mauvais goût, là.
Alors, c'est franchement du mauvais goût. Alors, Joséphine, évidemment, elle a complètement oublié de faire la liste de ses biens. Donc, il n'y a rien à annexer au contrat. Et puis, alors, il y a des erreurs volontaires sur les âges. C'est-à-dire, Napoléon s'est vieilli d'un an et Joséphine, évidemment, elle s'est un petit peu rajeunie. Voilà. Alors, tout ça est très mal fait.
C'est un mariage donc civil, hein. On est bien
c'est
dans le mariage civil.
C'est un mariage civil, voilà. Purement civil, il n'y a pas de mariage religieux, mais je pense qu'il y avait eu une action en justice, il aurait pu être annulé, parce que, si vous voulez, du point de vue juridique, ça ne tient pas. Voilà. Et si vous me permettez d'ajouter, lorsque Napoléon va se marier une deuxième fois avec Marie-Louise, il faut qu'il divorce de Joséphine, évidemment, et il va demander au Sénat d'annuler le mariage. Mais comme le disait un professeur de droit du 19e siècle à Paris, tout ça ne tient pas debout. Le Sénat n'a pas les pouvoirs d'un officier d'état civil. Deuxièmement, le divorce de l'époque n'est pas possible si la femme a plus de 45 ans, et c'est le cas. Et troisièmement, Napoléon lui-même, en 1806, a dit « De toute manière, il ne peut pas y avoir de divorce dans la famille impériale ».
Il se mariera donc religieusement la veille de son sacre.
Oui, pendant
la nuit. C'est-à-dire la veille, c'est-à-dire le 1er décembre 1804.
Oui, peut-être même le 2 décembre à 0 heure.
À 0 heure. Dans la nuit, on est dans la nuit. Et là, on est aux Tuileries, c'est ça?
On est au Louvre, dans les appartements secrets. Et ça s'est passé de la manière suivante. Joséphine est allée se jeter aux genoux du pape en disant qu'elle n'était pas mariée religieusement. Pissette l'ignore complètement, il tombe des nues.
Et lui doit assister au sacre.
Il doit assister, il célèbre pas le sacre, oui. Mais il doit y assister. Il dit, si c'est ça, moi demain je n'y vais pas.
Je pars.
Alors là, Napoléon sait très bien qu'il ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et donc il est fou furieux, mais il va quand même se marier avec Joséphine dans la nuit. Et comme il faut que les choses soient très secrètes, on demande au cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, de célébrer le mariage. Alors, Fesch le fait, il va voir le pape très rapidement, il lui dit « Est-ce que vous m'autorisez à faire tout ce que je dois faire parce que c'est pressé ?» Alors le pape dit « Oui, je ne suis pas formaliste. » Alors il retourne voir Napoléon, il bénit leur union, simplement il y a des choses dans le droit canon qui ne sont pas permises. Quand on marie un couple, il faut toujours l'autorisation du curé de la paroisse, ça c'est absolument obligatoire. Donc il ne l'a pas, et en plus, d'après ce que disent les historiens, il n'y avait pas non plus le nombre de témoins nécessaires. Voilà, parce qu'il fallait tout faire en secret, et donc il n'y avait pas le nombre de témoins requis. Et c'est ce qui a permis plus tard à Napoléon de faire annuler son mariage, non pas par le pape, comme il aurait dû le faire, il était déjà en prison, mais par une réunion de théologiens et d'ecclésiastiques qui, franchement, étaient à sa botte et qui auraient fait n'importe quoi.
Oui, vous évoquez le pape en prison, et effectivement, là, il faut revenir toujours dans Napoléon et Dieu, mais là, c'est plutôt Napoléon et l'Église. Le combat, si je puis dire, entre Napoléon et le pape Pie VII à propos du concordat. Alors, quelques mots sur ce concordat. Donc, c'est ce qui légifère, en quelque sorte, les relations entre, là, en l'occurrence, entre la République française et le Saint-Siège. Philippe Bornet.
Napoléon comprend très rapidement qu'il faut restaurer la paix religieuse. Il y pense déjà après Marengo. Il fait passer un message au pape, un message verbal par l'évêque de Versailles. Et c'est pour ça que Pie VII va envoyer un certain nombre de personnes, dont le général Consalvi, pour négocier un concordat. Donc ce concordat, c'est la grande œuvre de Napoléon. Si vous voulez, ça fait partie des incontestables bienfaits du consulat et de l'Empire. Voilà. Donc c'est la fin de la guerre religieuse. Les Français vont pouvoir exercer leur religion. Mais vous avez un entourage autour de Napoléon. Enfin, de Bonaparte plutôt, parce qu'il est encore consul, qui est contre et qui va obtenir de lui une espèce de contrepoids au consulat, au concordat, c'est-à-dire les fameuses lois organiques. Voilà. Mais même en tenant compte des lois organiques, finalement, Pie VII est très content et ça lui permet d'ailleurs de reprendre en main l'Église de France.
Mais en même temps, dans la suite de cette affaire de concordat, Pie VII va trouver que l'Église de France est beaucoup trop subordonnée à l'État.
Oui. En fait, le gros différent, c'est un différent purement temporel. Napoléon a envahi toute l'Europe et il veut mettre la main sur les États du pape parce qu'il veut blinder la façade adriatique. Il a peur que les Anglais débarquent.
Les États pontificaux. Donc.
Les États pontificaux. On ne dit pas le Vatican à l'époque. Et donc, il veut mettre la main sur Ancône, les légations du pape, etc. Il le fait. Et donc, le pape dit « Atteinte au temporel de la religion, je ne peux plus me défendre, je ne suis plus autonome. Et donc, je vous excommunie. » Napoléon est excommunié en 1810.
À 1909. 9.
Et donc, par la suite, le général Miollis, alors on est en pleine guerre, hein, vous savez, avec l'Autriche, Napoléon n'a pas tellement le temps de s'occuper de tout ça, mais Miollis, qui a très peu de troupes et qui occupe les États pontificaux, va prendre la décision d'arrêter le pape et de l'envoyer à Paris, parce qu'il a peur que la population se soulève, en fait. Et c'est certainement pas avec l'accord de Napoléon qui, le jour même, livre à l'Autriche la bataille de Wagram. Vous pensez bien qu'il a d'autres choses à faire que de s'occuper du pape, on verra ça plus tard.
Et le pape, quand même, restera prisonnier jusqu'en 1814, hein, prisonnier à Fontainebleau. D'abord à Savone, c'est
oui,
ça?
Oui, en Italie.
En Italie.
Enfin, en France, mais c'est l'Italie d'aujourd'hui.
Voilà. Et après à Fontainebleau, et ça jusqu'en 1814.
Oui, absolument. Absolument. Vous dites bien, il est resté prisonnier pendant 5 ans et 9 mois.
Dans de bonnes conditions?
Pas très bonne. On ne lui permet pas de se soigner. On le sépare de ses cardinaux. Parfois même, on le restreint sur sa nourriture. Et d'ailleurs, ce qui est un peu amusant, ou peut-être faut-il y voir un signe du ciel, Napoléon, lui, à Sainte-Hélène, il va être prisonnier aussi 5 ans et 9 mois. Et tout ce qu'il a fait subir au pape, il va le subir lui aussi.
Et dans le même temps, ce pape, donc le pape Pie VII, finalement, on fera montre d'une certaine générosité. En tous les cas, il n'a pas un esprit de vengeance, si je puis dire, puisqu'il demandera à ce que les conditions carcérales de Napoléon à Sainte-Hélène soient améliorées.
Oui, le pape a été vraiment admirable de charité. Par exemple, non seulement il a recueilli une partie de la famille de Napoléon, Laetitia, qui va finir ses jours à Rome, le cardinal Fesch lui-même, et même un frère de Napoléon, Lucien Bonaparte, qui était, comme vous le savez, ministre de l'Intérieur au moment du coup d'État. Lucien, non seulement il va aller finir ses jours à Rome, mais le pape va l'annoblir, il va le nommer prince de Canino. Donc on peut dire que vraiment le pape a été très gentil avec...
Magnanime.
Magnanime, et il s'est toujours beaucoup intéressé à ce qui se passait à Sainte-Hélène. On lui a fait un rapport d'ailleurs après.
Alors, Sainte-Hélène, vous partagez effectivement cette vision, la vision d'un Golgotha, c'est une vision d'une sorte de rédemption aussi, ou pas?
Oui, oui, tout à fait. Il a perdu sa gloire, il a perdu son immense richesse. Vous savez, il avait 200 millions en or dans les caves des Tuileries, il les a plus, ou quasiment plus. Il a perdu l'espoir de revoir son fils, qu'il adore, Marie-Louise. Il lui reste plus rien de ce qu'il faisait Napoléon. C'est un empereur complètement déchu. Donc, après cette phase d'humiliation, si vous voulez, un jour, au milieu de la nuit, au moment de Pâques d'ailleurs, entre le vendredi et le samedi saint, à 1h du matin, il ouvre l'œil dans la nuit et il demande au général Montholon d'appeler l'abbé Vignali. Et là, il dit « Fermez toutes les portes, je ne veux pas qu'on sache ce qui se passe, allez-vous-en, vous reviendrez quand j'aurai fini. » Alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils se sont dit, mais ce qui est quasiment certain, c'est qu'il s'est confessé. Il a demandé à communier, mais il n'a pas pu, parce qu'il vomissait très facilement, il n'a pas voulu manquer de respect à l'Eucharistie. Il a reçu en revanche ce qu'on appelait à l'époque le viatique, c'est-à-dire l'extrême onction. Aujourd'hui, on parle plutôt du sacrement des malades, mais en fait, c'est à peu près la même chose. Et il va aussi demander ce qu'on appelle la prière des 40 heures. La prière du 40 heures, elle se récite entre le vendredi saint, au moment où le Christ meurt, jusqu'au dimanche de Pâques, ça dure 40 heures à peu près, au moment où il ressuscite. Voilà. Et donc, il va demander à l'abbé Vignali, est-ce que vous savez faire une chapelle ardente? C'est très courant en Italie. Et l'abbé Vignali va installer un hôtel quasiment au chevet du lit de Napoléon. Et pendant quasiment presque 40 heures, il va prier pour Napoléon à sa demande.
Une dernière question, Philippe Bornet. Est-ce que justement dans ces derniers mois, dans ces dernières années, mais ces derniers mois surtout à Sainte-Hélène, Napoléon a exprimé un regret par rapport à ces millions de morts qu'ont provoqué les guerres napoléoniennes?
Il avait surtout le regret de les avoir perdus, surtout à partir de 1812. Mais non, il se considère comme le souverain. Il a fait des guerres, à part la guerre d'Espagne, il faut bien reconnaître qu'il était presque toujours obligé. Non, il n'a rien regretté. Et souvenez-vous de ses derniers mots, tête armée.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans son délire final, il se voyait à la tête de son armée. Et ça a été une de ses dernières pensées. C'est un chef de guerre.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Je vous remercie, Philippe Bornet. Je rappelle donc que votre Napoléon est Dieu et c'est publié aux éditions Via Romana. Merci.
Merci.
Napoléon et Jésus, l'avènement d'un messie de Marie-Paul Raffaelli Pasquini, publié aux éditions du Cerf, ne pose pas tant la question de la foi de Napoléon, mais l'inspiration de la figure tutélaire qui aurait guidé son action, celle de Jésus, l'homme, fils de Dieu pour les chrétiens venu sauver l'humanité. Napoléon admirait Jésus, il fait partie des héros qui ont bercé son enfance. Mais c'est un Christ politique qu'il aspire à devenir et s'inscrire à jamais dans l'histoire avec un grand H. Marie-Paul Raffaelli Pasquini, bonjour.
Bonjour.
Je ne vous cache pas que lorsque j'ai reçu votre livre et que j'ai lu le titre, livre préfacé, je le souligne, par l'académicien Jean-Marie Rouard, bien je me suis dit quelle audace d'aller comparer Jésus et Napoléon. Et je me suis dit, en ce bicentenaire de sa mort, de la mort de Napoléon, on le met un petit peu à toutes les sauces. Et puis, au fil des pages, je me suis ravisée. Et si Napoléon, effectivement, avec ses guerres, fut aux antipodes du message de paix prôné par Jésus, Jésus, en revanche, fut, à vous lire, le catalyseur de son action, de son destin.
Oui, oui, effectivement. Donc, dans cet ouvrage, en fait, je raconte une histoire. J'essaie de démontrer en quoi Napoléon a, bien évidemment, sa part d'ombre. On les connaît cette année avec les polémiques, mais il a aussi sa part de lumière. Et dans sa part de lumière, il y a aussi cet aspect messianique. Donc, c'est ce que j'essaie de démontrer.
Aspect messianique, donc du mot messie. Est-ce qu'il s'est présenté comme un messie dès le départ ?
Alors, oui.
C'est quoi un messie ?
Alors, un messie, c'est une personne hors du commun qui intervient providentiellement dans l'histoire pour la modifier en profondeur, la plupart du temps en mettant fin à une situation de crise et pour montrer au peuple une nouvelle direction à suivre au nom d'un idéal commun. Donc, l'aspect fédérateur est très important dans la messianité. Un autre aspect qui est essentiel, c'est l'aspect prophétique. Le Messie répond à une attente qui se caractérise par une tension utopique entre ce qui est déjà là, donc la réalité empirique, et ce qui n'est pas encore advenu, l'espoir du changement. Or, c'est vrai que on a tendance à réduire le messianisme à la seule personne du Christ. Or, il existe d'autres types de messies qui sont des messies laïques, sécularisés de leur temps, politiques notamment, dont Napoléon fait partie.
Alors, Napoléon s'inspirait également de d'autres grandes figures. Alexandre le Grand, César, ça aussi, ça fait partie de ces héros.
Ah, c'est essentiel. C'est vrai qu'il n'y a aucune volonté de monopolisation dans mon livre au Christ. D'ailleurs, c'est pas étonnant que, pour réfléchir sur le mythe napoléonien, la porte d'entrée la plus fréquemment ouverte, c'est celle de la romanité. Parce que c'est vrai que l'Empire est très fortement marqué par l'Antiquité grecque et romaine. Mais il y avait une autre dimension qui était un peu plus secrète, un peu plus cachée, qui demandait à être exhumée. Et cette dimension christique-là est aussi omniprésente dans l'aspect mythographique de Napoléon.
Et vous l'avez effectivement exhumée avec beaucoup, beaucoup d'archives et un gros travail. Vous êtes corse ?
Oui, je me trompe pas. Non, c'est ça.
Le nom ne trompe pas. Est-ce que c'est pour cela que vous vous êtes lancée dans cette étude très fouillée sur Napoléon ?
Alors, la rencontre avec Napoléon est une rencontre un peu de hasard, puisqu'en fait, ce livre est la retranscription de ma thèse de doctorat. Et à l'époque, j'étais à la recherche d'un sujet, et l'un de mes directeurs de thèse, qui était spécialiste de Napoléon, il a travaillé pendant plusieurs années sur les imaginaires napoléoniens, m'avait suggéré, certainement à cause de l'approche du bicentenaire de sa mort, de travailler sur Napoléon. Donc là, j'étais à la fois heureuse, parce que Napoléon, c'est quelqu'un quand même de très intéressant, de très fascinant à étudier, et en même temps un peu embêté parce que lorsqu'on sait qu'il est sorti plus de livres sur Napoléon qu'il ne s'est écoulé de jours depuis sa mort, j'étais face à un problème. Je me suis dit, bon, mais de quelle manière je vais pouvoir trouver un angle un tant soit peu inédit à apporter à la recherche déjà colossale qui avait été portée sur l'empereur. Et en lisant le mémorial de Sainte-Hélène d'Emmanuel de Lascaz, j'ai pu remarquer que l'empereur faisait à plusieurs reprises référence au Christ. Il a par exemple cette phrase quand même incroyable, en parlant de ses propres souffrances d'exil, il dira « si le Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu ». Donc là quand même, ça m'a titillé, je me suis dit « tiens, est-ce que c'est une simple intuition comme ça qui va me traverser de manière fulgurante et ça n'ira jamais plus loin ?» Ou est-ce qu'en creusant, on peut faire germer une pensée vraiment scientifique qui se tienne ? Et ça a été le cas, et même au-delà de mes espérances.
Alors, vous parliez tout à l'heure du Messie hein, qui arrive pour mettre fin au chaos. Bon, c'est le cas de Napoléon, évidemment.
Exactement.
Dans la post-révolution.
Napoléon est arrivé au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire qu'il arrive dans une période post-révolutionnaire, qui est une période de déchristianisation, une période où les saints sont laïcisés, où la religion est considérée comme une force aliénante.
La monarchie de droit divin est abolie.
C'est ça. Alors, il n'y a plus de sacré religieux, oui. Et il n'y a plus non plus, comme vous venez de le dire, de sacré politique, puisque la monarchie dite de droit divin a été mise à bas, et Napoléon a rétabli une forme de sacralité religieuse avec le Concordat, qui rétablit la liberté des cultes, et il a remis en place aussi une forme de sacralité politique, en prêtant ses traits à une autorité tutélaire qui faisait alors défaut, puisque le ciel était devenu vide et que toute transcendance en a été expulsée. Et donc le peuple français, qui avait encore fortement ce besoin de croire, a reporté ce besoin-là sur cet être charismatique auquel il a attribué des pouvoirs surnaturels. On ira même jusqu'à lui dédier des ex-voto.
Et il incarne évidemment tout cela avec son sacre, hein, le 2 décembre 1804, en présence du pape.
En présence du pape.
Quand même, en présence du pape. Hein. En même temps, le pape, oui, il devait être présent juste pour la partie religieuse, écrivez-vous, parce que, évidemment, la papauté avait mal supporté notamment la vente des biens ecclésiastiques.
Oui, et puis en plus, le pape, évidemment, était dérangé par le concordat qui consacre non pas la liberté du culte, mais la liberté des cultes, ce qui, bien sûr, posait problème. Mais il a accepté de venir parce qu'il n'empêche que Napoléon reste l'homme qui a rétabli la religion en France, et donc il a accepté de venir pour faire partie du sacre, et ce sacre confère à Napoléon cette dimension sacrale qui jusqu'à présent lui manquait, et c'est évidemment un changement de statut. On passe de Napoléon à l'empereur, et donc il s'inscrit, sans vraiment le dire, mais il s'inscrit quand même dans la continuité des rois de l'Ancien Régime, dépositaire d'une forme de sacralité. En fait, c'était le représentant de Dieu sur Terre.
C'est toute l'ambiguïté de Napoléon.
C'est toute l'ambiguïté de Napoléon, puisqu'en même temps, il n'est pas sacré roi, il est sacré empereur.
C'est ça. Et vous dites mi-dieu, mi-homme, enfin, vous êtes un peu, c'est un peu comme, voilà, comme, comme le Christ.
Alors en fait, voilà, c'est ça, c'est que Napoléon est un être frappé d'hybridité. C'est à la fois l'incarnation du particulier, c'est-à-dire que c'est un homme parmi les hommes, c'est une émanation du peuple, il s'inscrit dans l'immanence, et simultanément, c'est l'incarnation de l'universel. Il porte quelque chose de plus grand que lui, qui le déborde, pour ainsi dire, de l'ordre de la transcendance.
Dans le même temps, alors, ce que je soulignais dans l'introduction de notre rencontre, Marie-Paul Raffaelli Pasqualini, c'est que les guerres napoléoniennes, évidemment, sont aux antipodes hein, de la paix prônée et prêchée par Jésus. Alors, ces guerres aussi s'inscrivent, on le sait, dans la suite de la Révolution française.
Bien sûr. Alors déjà, c'était des guerres qui étaient nécessaires. Hein. Voilà. C'était pas des guerres, évidemment, pour le plaisir des carnages. Mais il y a, entre l'image de Napoléon et l'image du Christ, un manichéisme poussé à l'extrême qui, me semble-t-il, demande à être un peu nuancé. Jean-Christian Petit-Fils, qui est historien et qui a écrit une très belle biographie sur Jésus, rappelle de manière très juste que le Christ n'est pas en toutes circonstances ce doux missionnaire empreint d'amour et de patience. C'est aussi un homme qui crie, qui invective, qui voue aux gémonies les personnes qui refusent d'entendre sa parole. Et à l'époque, le Christ était quelqu'un de très révolutionnaire, mais aussi de très choquant, puisqu'il représentait une rupture dans les modalités d'application du judaïsme,
de la loi, oui.
Les Juifs étaient très attachés à la loi hébraïque. Et Jésus dira, par exemple, le Shabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. Donc, il y a aussi cette forme, une certaine forme de violence aussi chez le Christ pour imposer la nouvelle vision de la religion.
Oui, enfin, on ne peut quand même pas comparer violence des paroles avec les morts, les millions de morts hein, des guerres napoléoniennes, hein, des deux côtés, bien sûr.
Hein. Alors ça, c'est évident. Mais si vous voulez, dans ce livre, je ne suis pas en train de dire que Jésus et Napoléon, c'est la même chose. Comme je disais tout à l'heure, il s'agit d'une analogie. Et une analogie, c'est une comparaison entre deux choses qui peuvent être différentes.
Et d'un modèle qu'il voulait suivre, en quelque sorte.
Et d'un modèle qu'il voulait suivre. Donc ça, c'est évident.
Le sermon sur la montagne, comment le voyait-il, Napoléon ?
Alors, il qualifiait le Christ d'être sublime, parce que justement, il y avait cet aspect fédérateur, il y avait ce désir du bien commun, cette volonté hégémonique de rassembler tout un peuple autour d'un idéal commun, et ça ne pouvait que toucher Bonaparte, qui voulait et qui avait une vision hégémonique de l'Europe.
Sa vision de la religion, manifestement, quand même, elle avait un certain, j'allais dire, cynisme politique. On peut le dire des choses comme ça. Pour lui, eh bien, la religion, ça maintenait l'ordre, en quelque sorte, et que finalement, un croyant, bah, c'est un bon citoyen.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Napoléon avait une vision très utilitariste. J'aime pas ce mot parce que je le trouve un peu violent, mais c'est ça. Il considérait que les bons croyants faisaient les bons citoyens. Et puis, il avait aussi conscience que le peuple français avait besoin de retrouver ses lieux de culte, parce que quand même, après la Révolution française, il y a eu une politique de déchristianisation qui était vraiment incohérente. Hein. Il y avait de l'être suprême de Robespierre à le côté théologique un peu du Concordat. On avait besoin de remettre de l'ordre. Et c'est pour ça que en 1801, il réautorise les gens à renouer avec leur foi. Il savait que pour eux, c'était indispensable.
Lui-même, d'ailleurs, plus tard, mais ça, on en parlera plus tard, à Sainte-Hélène, il était heureux quand il y avait la messe. Hein.
Oui, mais c'est lui-même qui a réclamé au cardinal Fesch de lui envoyer deux officiants, qui étaient deux officiants corses, d'ailleurs, Vignali et Bonavite, pour... il était heureux de retrouver la messe le dimanche et disait, revoir la messe, c'est revoir la patrie.
Qui lui manquait, évidemment.
Qui lui manquait, évidemment.
Qui lui manquait terriblement. Toujours pour rester dans ce domaine hein, de la vision de la religion de Napoléon, lors de ses conquêtes, hein, il disait « les conquérants doivent savoir être de bons musulmans ». Je pense qu'il faisait allusion à la conquête en Égypte.
Oui.
Donc, les conquérants doivent savoir être de bons musulmans et être de bons catholiques en France. Ça, c'est vraiment de l'utilitarisme, ça.
Ah oui, ça c'est certain. D'ailleurs, il disait « ma politique est de gouverner les hommes comme le plus grand nombre veut l'être. C'est là la manière de reconnaître la souveraineté du peuple ». Donc, bien sûr qu'il y a eu une certaine forme d'instrumentalisation de la religion, c'est indéniable. D'ailleurs, Napoléon a utilisé sa propre personne, puisque je me permets de rappeler qu'il a pratiqué l'osmose entre le christianisme dont il s'est fait le restaurateur et le culte de sa personne. Et c'est vrai que le syncrétisme est à ce point réussi qu'il va reprendre les formes de la sacralité chrétienne à son compte en se coulant dans le calendrier grégorien qui a été rétabli en France en 1806. Pour ça, on exhume Saint Napoléon qui aurait été martyrisé sous Dioclétien au IIIe siècle. Et ça donne une sorte de foi mixte. Les croyants vénèrent le saint et les non-croyants vénèrent Napoléon. Donc en même temps, tout le monde s'y retrouve. Et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, puisque certains verriers ne se priveront pas de conférer au saint sur leur vitraux les traits de Napoléon. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on fait prier pour l'empereur, on fait lire en chaire les bulletins de la Grande Armée, on célèbre ses victoires militaires par des Te Deum, et on demande au neveu du ministre des Cultes de l'époque, donc l'abbé d'Astor, d'accord de rédiger un catéchisme impérial pour remplacer le catéchisme officiel et qui consacre le régime comme étant directement issu de Dieu. Un petit extrait quand même pour qu'on en comprenne la lettre et l'esprit. Demande, que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers notre empereur ? Réponse, selon saint Paul, ils résisteraient à l'ordre établi de Dieu même et se rendraient dignes de la damnation éternelle. Donc je pense que ça se passe de tout commentaire.
Et de même, dans cet esprit du culte, Marie-Paul Raffaelli Pasquini, la rédaction du Code civil, c'est quasiment perçu comme l'étape de la loi.
Alors, c'est perçu comme l'étape de la loi dans l'imaginaire collectif grâce à un peintre qui s'appelait Jean-Baptiste Moses. Et dans ce tableau, Napoléon est présenté vraiment comme un être démiurgique à l'origine d'un nouvel ordonnancement du monde. Napoléon, comme le dit si bien Adam Mickiewicz, c'est l'idée sociale faite au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une puissance conceptrice qui se rattache à l'évocation de son simple nom. Et dans ce tableau, qui s'appelle Napoléon couronné par le temps, écrit le Code civil. On voit l'empereur sur un nuage, couronné par l'allégorie du temps qui prend les traits d'un ange et qui est en train de rédiger le Code civil qui prend ici la forme des tables de la loi. Donc bien sûr, outre la référence criante à l'Ancien Testament et à cet autre Messie qu'est Moïse, ici le Code civil, c'est une genèse en quelque sorte. C'est un renouveau cosmogonique politico-social dont Napoléon est le grand horloger. La loi ici, elle est écrite avec une majuscule et en quelque sorte, c'est le verbe créateur qui fait apparaître une nouvelle société régie par les paradigmes napoléoniens. Donc l'empereur, en fait, c'est la performativité du verbe, ce qui est très christique.
Écoutez Religion du Monde, notre invité Marie-Paul Raffaelli Pasquini pour son livre Napoléon et Jésus, l'avènement d'un Messie, et c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, puisque nous parlons iconographie, Marie-Paul Raffaelli Pasquini, il y a l'iconographie contre Napoléon. Et là, je vois cette caricature d'Henri Gérard Fontalard, le diable l'emporte. Alors, c'est Napoléon qui est sur le diable.
Oui.
Alors là, on passe à la face sombre à l'anticulte, j'allais dire, de Napoléon.
Alors, l'anticulte, oui et non, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que le diable et Dieu sont des personne antagoniste, ce qui est vrai. Oui. Mais quand on regarde de plus près, pas tant que ça, parce que finalement, qu'est-ce qu'un antéchrist ? C'est un Christ inversé.
Oui.
Donc, finalement, l'archétype messianique diabolisé fonctionne de la même manière que l'archétype divin.
Vous voulez dire que ça marche dans le mythe aussi ?
Ça marche dans le mythe aussi, bien sûr. Et très curieusement, quand on étudie le mythe napoléonien, on s'aperçoit que la phase antéchristique participe autant, très curieusement, de la messianité napoléonienne que le Messie lumineux. Par exemple, on trouve chez Charles Nodier, qui était un académicien de l'époque, une vision de Napoléon qui préfigure le jugement dernier, qu'il compare au cavalier de l'Apocalypse. Mais finalement, c'est quelqu'un qui met fin à une ère et qui entame le début d'une nouvelle. Donc ça rejoint la définition du Messie dont je parlais plus haut. Et puis sur un aspect un peu plus politique, il y a aussi les pays qui se sont coalisés à l'époque contre lui, qui sont son autre proclamer la Sainte Alliance. Oui. Donc bon, il y a quand même, ça ne s'invente pas.
Le portrait satanique de Napoléon est fait.
Ah, ça c'est certain, le portrait satanique de Napoléon est fait.
Effectivement, il y a tous ceux qui écrivent ou qui disent, en gros, comme Lamartine par exemple, eh bien je ne me prosternerai pas devant l'image de Napoléon, devant sa mémoire plus exactement. C'est quand même très courant après sa mort.
Alors, en fait, Napoléon a conscience qu'il laisse avec l'Empire un bilan plutôt mitigé. Et pour ça, il a conscience qu'il doit substituer, comme il le dira lui-même, la plume à l'épée. Et c'est exactement ce qu'il va faire avec le mémorial de Sainte-Hélène. Et finalement, ce mémorial, c'est ce qui va réconcilier Napoléon avec le peuple français, puisque le retour des cendres réunira 1,5 million de personnes. Et finalement, c'est une forme de résurrection dans la mémoire collective.
Alors, ce mémorial, donc, ce sont les conversations quotidiennes de l'empereur avec Emmanuel de Lascazes.
Oui.
C'est ça, donc. Et ce mémorial dit beaucoup, effectivement. Alors, pour vous, vous parlez d'évangile, de nouvel évangile.
Oui.
Pourquoi?
Oui. Alors, je parle d'évangile parce que c'est la Bible napoléonienne. Encore aujourd'hui, tout le monde a le mémorial. Même si pas grand monde ne l'a lu, on l'a tous dans nos bibliothèques. Et c'est vrai que c'est grâce au mémorial de Sainte-Hélène que Napoléon est devenu le mythe qu'il est aujourd'hui. Sans le mémorial, il serait resté dans l'histoire comme un grand dirigeant, un grand guerrier, mais il ne serait pas rentré à ce point-là dans l'inconscient collectif de la France, parce que finalement, le mémorial, c'est sa passion. Sainte-Hélène, c'est son Golgotha. On retrouve Ponce Pilate avec Hudson Lowe, et il y a même le thème de la résurrection avec Horace Vernet, le peintre, qui nous offre un Napoléon sortant glorieux du tombeau, auréolé de lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le mémorial. Et d'ailleurs, Napoléon dira lui-même que l'Angleterre l'a ceint d'une couronne d'épines. Il comparera ses compagnons d'infortune et lui-même aux martyrs qui serviront une cause immortelle.
Oui, là, effectivement, à Sainte-Hélène, il est totalement dans un mouvement christique, très clairement. Hein.
Bien sûr, parce que c'est la souffrance, c'est le thème du sacrifice.
Il est très malade, il souffre certainement beaucoup, parce qu'il y a des messes auxquelles il assiste.
Oui, il est allongé.
Donc ça dit sa souffrance quand même.
Bien sûr, oui, mais c'est une souffrance physique avec la maladie, mais c'est aussi une souffrance morale, puisque Napoléon était quelqu'un d'hyperactif, on le sait, c'était un bourreau de travail, et là il se retrouve confronté à la vacuité des heures qui s'égrènent comme ça, donc c'est un enfermement topographique, mais c'est aussi un enfermement psychique. Et ça, bien évidemment, c'est une forme de passion.
Le mémorial de Sainte-Hélène dit beaucoup de la vie intime, de la spiritualité de Napoléon dans ses dernières années de sa vie. Et là, je lis une phrase de lui que vous avez donc exhumée. « Je suis loin d'être athée », c'est ce qu'il dit.
Ben
je
oui.
suis loin d'être athée. Manifestement, vous écrivez, il est en quête de Dieu avant de rendre son dernier souffle. Et effectivement, il vit cette période de sa vie, cette fin de vie, comme un Golgotha.
Oui, bien sûr, il y a à la fin de sa vie un retour de Napoléon à la foi. Bon, très certainement, comme vous l'avez dit, parce qu'il se sait malade et qu'il a certainement besoin du réconfort de la foi, mais aussi parce que on le dit pas assez, on parle du Napoléon athée, mais effectivement, Napoléon avait les athées en horreur. Il a d'ailleurs dit « Tout proclame l'existence de Dieu, c'est indubitable », et il trouvait que Jésus était un être sublime. Donc il y avait aussi, plus qu'un attachement, il y avait un respect de la foi, et je pense que pas seulement à la fin de sa vie, mais au fond, Napoléon a toujours été, alors si ce n'est un catholique fervent, du moins quelqu'un dans lequel les sarments de la religion avaient été profondément implantés, ça ne le quittera jamais, et effectivement, il y aura cette espèce de retour à la religion à Sainte-Hélène. Il a même demandé à son oncle, qui était le cardinal Fesch, d'envoyer deux aumôniers pour officiers, deux aumôniers Corse, Vignali et Buonavita, et il était ravi de pouvoir renouer avec la foi.
Vous écrivez, il croit, mais ne peut ni ne veut croire en tout ce que les dogmes religieux imposent.
C'est ça. Parce qu'en fait, il lisait beaucoup Rousseau, il lisait beaucoup Chateaubriand, et c'est le génie du christianisme. Et en fait, il avait une vision très rousseauiste, je pense, de la religion, où c'est une vision panthéiste, en fait. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une autorité tutélaire, sévère, dans les cieux, mais il est partout dans la nature, et on peut y accéder n'importe quand à travers son intériorité. Donc, il avait une vision beaucoup plus humaine, beaucoup plus humaniste, et beaucoup plus accessible de la religion.
C'est le Napoléon, le jeune Corse, qui revient à la fin de sa vie, le jeune Corse catholique.
Ah, c'est évident, oui, puisque l'enfance de Napoléon était très catholique. Et puis, il faut se rappeler que je pense qu'il faisait aussi un lien avec sa mère, puisque sa mère était une femme très pieuse. Et il y a aussi un lien très affectif, je pense, à la religion et à sa Corse natale.
Et vous décrivez sa mère, d'ailleurs, comme la Pietà, quand elle apprend la mort de son fils.
C'est ça, exactement.
Je vous remercie Marie-Paul Raffaelli Pasquini. Je rappelle le titre de votre livre, Napoléon et Jésus, l'avènement d'un Messie, et c'est publié aux éditions du Cerf.
Merci de m'avoir invité.
Et c'est la fin de Religion du Monde, consacrée à Napoléon. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.